Juste après le journal. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez. RFI vous informe. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à toutes et à tous. Un cessez-le-feu encore incertain entre Israël et l'Iran. L'État hébreu l'a accepté mais promet de riposter avec force à toute violation. L'Iran, de son côté, dit rester en alerte et avoir forcé Israël à cesser la guerre. Trêve très fragile donc annoncée par le président Trump. Objectif 5% du PIB consacré à la sécurité, thème central du sommet de l'OTAN aujourd'hui et demain. Les États-Unis font pression sur les alliés pour plus de dépenses dans leur défense. En France, le Premier ministre François Bayrou veut sauver les concertations sur les retraites avec des réunions de la dernière chance entre partenaires sociaux ce matin. Et puis le mondial des clubs de foot, l'Inter Miami retrouvera le Paris Saint-Germain en huitième de finale. Oui, le danger persiste selon Israël et une vigilance accrue reste en vigueur selon l'armée qui dit avoir détecté de nouveaux missiles iraniens après le cessez-le-feu annoncé par Washington et confirmé par l'État hébreu qui affirme avoir atteint tous ses objectifs de guerre. Dans un communiqué il y a quelques minutes, l'Iran de son côté dit rester en alerte et affirme avoir forcé Israël à cesser la guerre. Après 12 jours de confrontation. C'est donc le président américain Donald Trump qui a annoncé cette trêve sur son réseau social, Pierre-Olivier.
Dans un message posté dans la nuit, Donald Trump raconte à sa façon comment les choses se seraient passées. L'Iran et Israël sont venus me voir presque en même temps, dit-il. Ils m'ont demandé la paix. J'ai alors su que le moment était arrivé. Un peu plus tôt dans la soirée, dans un autre message, le président américain annonçait seul que la guerre serait terminée dans 24 heures. Un conflit qu'il a d'ailleurs baptisé de lui-même la guerre des 12 jours. Donald Trump va même plus loin en félicitant l'Iran et Israël pour leur courage et leur intelligence. Finalement, celui pour qui ce cessez-le-feu a le plus d'importance aujourd'hui, c'est Donald Trump. 48 heures après avoir bombardé les sites nucléaires iraniens, une partie de sa base électorale redoutait une nouvelle entrée en guerre des États-Unis au Moyen-Orient et beaucoup de ses électeurs ne lui auraient pas pardonné. Pierre-Olivier Washington, RFI.
Une annonce quelques heures après une attaque iranienne sur la base américaine d'Al Udeid au Qatar. Le site avait été évacué en amont, il n'y a pas eu de victimes. Donald Trump a d'ailleurs remercié l'Iran d'avoir prévenu les États-Unis à temps. On verra dans les prochaines heures si le cessez-le-feu est respecté. En tout cas, dans les négociations vers cette trêve, il a fallu donner des gages à toutes les parties, souligne Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut géopolitique européen.
Il faut savoir terminer une guerre, c'est un des grands principes. Encore une fois, si les objectifs de guerre d'Israël, comme ils l'ont revendiqué depuis des jours, étaient uniquement la destruction des sites nucléaires et pas le renversement de régime, même si au fond tout le monde l'espérait ou tout le monde l'attend, sans réfléchir à l'après et souvent les périodes de chaos qui durent et qui durent au Moyen-Orient dans ce type de situation-là, il est clair que s'il y a eu une négociation et probablement avec le soutien appuyé du Qatar, on est dans une situation où il a fallu donner des gages aux uns et aux autres. Alors à Israël, on a donné le gage de l'intervention ultime pour détruire les sites nucléaires et au régime iranien, on a probablement donné la possibilité que ce régime perdure. De toute façon, la seule issue pour le régime dit des Mollahs, s'il voulait se maintenir au pouvoir, c'était de terminer la guerre parce que l'Iran était extrêmement affaibli et je ne suis pas sûr qu'il aurait duré encore extrêmement longtemps où eu la capacité d'intervenir et de réagir à Israël.
Voilà, analyse de Sébastien Boussois, invité ce matin de Jeanne Bartoli. Malgré, on le disait, la fragilité de ce cessez-le-feu, il est salué par plusieurs pays, notamment l'Arabie Saoudite, la France, la Russie à l'instant. Les marchés respirent, les bourses européennes ont ouvert en forte hausse. L'Irak a par ailleurs annoncé la réouverture de son espace aérien. Après l'annonce de cette trêve, le chef de l'opposition israélienne, lui, appelle à mettre fin également aux opérations à Gaza. Il est temps d'en finir là-bas aussi, écrit Yair Lapid. La bande de Gaza où les scènes meurtrières se répètent à proximité des centres de distribution alimentaire, selon la défense civile de l'enclave. 21 personnes ont encore été tuées aujourd'hui dans des tirs israéliens. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, affirme que le système d'aide mis en place est une abomination. La situation au Moyen-Orient sera sans doute évoquée au sommet de l'OTAN qui s'ouvre là ce mardi aux Pays-Bas, mais le thème principal devrait être résumé en un chiffre, 5%. Donald Trump le martèle depuis son retour à la Maison-Blanche. Les membres de l'Alliance doivent dépenser plus pour leur défense à hauteur de 5% de leur PIB. Le président ukrainien sera bien présent à ce sommet en tant qu'invité, pas participant officiel. Volodymyr Zelensky devrait échanger avec le président américain demain, mercredi, lui qui espère plus de pression sur la Russie, alors que son pays a de nouveau été frappé la nuit dernière dans le nord-est. 3 personnes ont été tuées dans le secteur de Soumy. Et avant ce sommet de l'OTAN, dans un contexte d'incertitude sur la solidité de l'alliance avec les États-Unis, le Canada et l'Union européenne ont signé hier à Bruxelles un accord qui renforce leur coopération. Le Canada est en froid avec son allié historique américain et il multiplie donc il renforce ses partenariats, tout comme l'Union européenne, Pierre Benazé.
Les Européens et le Canada veulent renforcer leur partenariat sur des valeurs communes et avant tout le maintien d'un ordre mondial fondé sur des règles. En réponse au désordre créé par Donald Trump sur les droits de douane ou le climat, il s'engage à respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce ou les accords de Paris. Mark Carney, Premier ministre du Canada.
En ce qui concerne la valeur du nouveau gouvernement canadien, nous avons un mandat fort qui consiste à diversifier, à renforcer nos partenariats internationaux, à trouver de nouveaux moyens de coopération et de connexion et à accroître la sécurité, la prospérité et la stabilité chez nous et à l'étranger, sûrement y compris l'Ukraine. Pour remplir ce mandat, nous nous tenons d'abord à nos alliés les plus fiables, ceux qui partagent nos valeurs de démocratie, de liberté et de souveraineté.
Ce sommet a lancé la mise en place d'un partenariat en matière de défense qui verra d'abord l'arrivée d'un officier de liaison de l'armée canadienne dans les institutions de l'UE et devrait à terme voir le Canada participer à des achats communs et à des marchés publics militaires européens, à des opérations de sécurité de l'UE et à des investissements militaires dans le cadre du programme de réarmement européen. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
On vient de l'apprendre en Algérie. 10 ans de prison requis contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, l'écrivain incarcéré depuis le mois de novembre. En France, c'est un peu les réunions de la dernière chance sur les retraites. Après l'échec du conclave la nuit dernière, François Bayrou reçoit ce matin séparément les organisations syndicales et patronales. De belles retrouvailles en perspective au mondial des clubs de foot aux États-Unis. Le PSG affrontera l'Inter Miami de Lionel Messi en 8e de finale. 2 ans après le départ de la légende argentine du PSG, ce sera dimanche à Atlanta. Avant cela, au programme aujourd'hui notamment, l'Espérance de Tunis contre les Anglais de Chelsea à Philadelphie, sur la côte Est, une ville où le sport tient une place très importante, mais où le football, qu'on appelle soccer, n'est pas si populaire, Baptiste Leduc.
Dans un des nombreux bars sportifs de Philadelphie, on comprend vite qui est le plus populaire. Pour Mike, personne ne joue dans la cour des Eagles, la franchise de football américain vainqueur du dernier Super Bowl. Suivent le basket, le baseball avec les Sixers et les Phillies, puis les Flyers du hockey. Le soccer, lui, reste hors jeu dans cette ville dingue de sport. La Coupe du Monde des clubs intrigue les locaux comme Lewis.
J'ai vu beaucoup de supporters brésiliens. Je suis allé voir un match et il y avait surtout des Brésiliens, mais aussi des Tunisiens. J'aime bien ça.
Et pourtant, du soccer, ils en ont. L'Union de Philadelphie porte les couleurs de la ville en MLS, mais selon Jonathan Tannenwald, qui suit l'équipe pour le journal local, elle n'est pas assez visible.
Tristement, ils jouent dans le banlieue pendant la ville. Ici, on est à une demi-heure, presque seulement par voiture. Et c'est triste parce que toutes sortes de gens qui iront au match local, s'ils étaient dans la ville, ils ne vont pas.
La Coupe du Monde des clubs va-t-elle apporter une nouvelle dynamique ? C'est ce qu'espère Stas Korzeniowski, milieu de terrain à l'Union.
En tant que joueur de foot, on veut cette attention et cet enthousiasme, cette énergie autour du football. Je suis très content et je suis sûr que ça aura un impact.
Le soccer part de loin dans une ville qui accueillera 6 rencontres du Mondial 2026. Baptiste Leduc, Philadelphie, RFI.
Oui, à Philadelphie, il est 5h10 du matin, 11h10 ici à Paris. On vous retrouve, Caroline Paré, pour Priorité Santé. Bonne émission, à tout à l'heure.
Un grand merci à vous, Charlotte Hydrac.